Chapitre 4e. Si Hélène ne connaissait pas le comte Prêt-à-Voine, au moins avait-elle souvent entendu parler de lui, non seulement depuis qu'elle était à Condé, mais encore avant d'y venir, car son père avait la curiosité des choses du pays natal, et en plus des deux journaux de l'arrondissement qu'il recevait, l'Étoile de la Vallée et le Réveil de Condé, il avait des correspondants qui le tenaient au courant de ce que les journaux ne racontent pas. Or, ce que les journaux n'avaient pas dit, le clérical, par respect, pour un compte du pape, qui était le chef du parti religieux dans le pays, le libéral, par peur d'un bon procès en diffamation qu'il aurait ruiné car il n'était pas riche, c'était l'histoire du mariage de ce bon jeune homme avec la petite fille du comte de La Roche-Audon et les malheurs plus ou moins comiques qui avaient résulté pour lui de ce mariage. Mais justement, parce que les journaux avaient été muets à ce sujet, les lettres que recevait M. Marguerite avaient été pleines de détails, de bavardages et de plaisanteries. Peut-être existe-t-il, dans des contrées lointaines, des jeunes filles de 19 ans qui croient que les enfants poussent sous une feuille de chou. Hélène, heureusement pour elle, n'était point de ces hypocrites innocentes. Elle avait été élevée par un père intelligent qui ne croyait pas que pureté et stupidité soient synonymes. Et s'il n'avait pas compris tout ce que disaient ces lettres, surtout si elle n'avait pas deviné tout ce qu'il fallait lire entre les lignes, elle en avait assez compris cependant, et assez deviné aussi pour avoir rêvé plus d'une fois à ce fameux comte Prêt-à-Voine et à la comtesse sa femme, ou plutôt à la comtesse qui, mariée malgré elle et par dévouement filial, n'avait pas voulu, disait-on, accepter pour mari celui qu'on lui avait imposé et n'était sa femme que de nom. N'y avait-il pas là de quoi faire travailler la curiosité d'une jeune fille? Repoussée par sa femme, qui ne manquait jamais une occasion de lui témoigner publiquement sa haine et son mépris, le comte se consolait en administrant avec une habileté qui eût fait l'envie du juif le plus retors la grosse fortune du comte de La Roche-Audon. Autrefois embarrassée, cette fortune était devenue nette et liquide entre les mains du comte Prêt-à-Voine, qui lui faisait produire un revenu que le vieux comte de La Roche-Audon n'avait jamais cru possible. Il est vrai que le vieux comte était l'homme le plus juste et le plus doux avec ses fermiers ou ses marchands de bois, tandis que le comte Prêt-à-Voine était dur comme fer, inaccessible à la pitié, et qu'il ne se laissait pas plus émouvoir que tromper. Son intérêt, rien que son intérêt, aucun souci des droits des autres. Pour administrer cette fortune territoriale, et celle qu'il avait recueillie en valeur dans la succession de sa mère, il venait tous les mois passer 12 ou 15 jours au château de la Rouvraie, où il ne recevait aucun des amis du grand-père de sa femme, mais seulement les siens, c'est-à-dire ceux qui pouvaient le servir, car il n'avait pas d'amis. C'était là l'homme que M. Malattiré voulait qu'Hélène sollicitât, et cela était assez effrayant pour qu'elle se rappelât tout ce qu'elle avait lu ou entendu sur son compte. Qu'était-il au juste ? L'égoïste, le coquin, le tartuffe que disaient ses adversaires, le généreux, le loyal, le saint que prétendaient ses partisans, ni celui-ci, ni celui-là peut-être, et probablement un homme comme tous les autres. En tout cas, elle verrait bien. Et le lendemain même de sa visite à l'inspecteur, elle partit pour aller au château de La Rouvraie. Toute la soirée, elle avait balancé si elle demanderait à sa grand-mère de l'accompagner, et longuement elle avait examiné le pour et le contre de cette question. Le pour, c'était d'être plus assurée en ayant sa grand-mère avec elle. Le contre, c'était, en se présentant ainsi, deux femmes en deuil, de paraître peut-être vouloir forcer la pitié de celui qu'elles allaient solliciter. Cette considération avait décidé sa résolution. Elle voulait bien se résigner à demander un service, mais elle ne pourrait s'abaisser à le mendier. Elle irait seule. C'était la première fois que cela lui arriverait, elle qui n'était jamais sortie sans son père. Mais elle n'en était plus à se laisser arrêter par cette raison qu'elle faisait une chose pour la première fois. Combien de choses maintenant allait-elle faire qu'elle n'avait jamais faites et qu'elle avait cru ne devoir jamais faire? Et puis, chez le comte Prêt-à-Voine, on pouvait se présenter hardiment, c'était presque un confesseur. Si elle n'avait point été élevée dévotement, elle l'avait été chrétiennement, et elle avait toujours vécu dans le respect des gens pieux. C'était en raisonnant ainsi qu'elle franchissait à pied la courte distance qui sépare Condé du château de La Rouvraie. Il avait gelé dans la nuit, et la route était sèche, ce qui était une bonne chance pour elle et lui permettait de se présenter décemment. Qu'il eût plu la nuit, que les chemins eussent été défoncés, elle aurait dû retarder sa visite. Car le temps n'était plus où une admirable avenue de chênes, plantée sur six rangées, faisait communiquer le vieux château avec la grande route, et où, sous le couvert de ces arbres séculaires, s'étendait un tapis d'herbe et de mousse qui servait de lieu de promenade et de récréation aux habitants de Condé. Ayant pris en main l'administration des biens du comte de La Roche-Audon, Aurélien Prétavoine était parvenu à arracher au vieux comte l'autorisation de mettre à bas cette avenue, et il en avait tiré une centaine de mille francs qui, selon lui, valaient bien ses ombrages. Puis, diminuant le terrain perdu et le restituant à la culture, il s'était contenté de faire replanter tout simplement deux lignes de peupliers qu'il espérait bien exploiter une fois encore. Mais ses travaux avaient exigé des défoncements de terrain, de sorte que les jours de pluie, le chemin qui conduit au château est à peu près impraticable pour les piétons. Marchant sur la terre durcie par la gelée, Hélène arriva sans encombre, c'est-à-dire sans se mouiller et se crotter, au saut de loup qui sépare l'avenue du jardin dessiné à la française, avec charmilles, arbustes verts taillés, escaliers en pierre et à balustres, bassins, statues, et là elle s'arrêta un moment pour regarder le château qui se dressait devant elle dans sa belle ordonnance. Elle n'avait guère en ce moment l'esprit sensible aux choses d'art, aussi ne songeait-elle guère à admirer ni ses hautes cheminées sculptées, ni ses gracieuses lucarnes entourées d'ouvrages en plomb. C'était à celui qui présentement habitait ce château qu'elle pensait. Ainsi un fils de petit bourgeois, de petit marchand, qui avait commencé misérablement dans un village, en était arrivé à commander en maître dans ce château après avoir épousé l'héritière de la noble et puissante famille de La Roche-Audon, dont les ancêtres remontaient authentiquement jusqu'à Rollon, le conquérant de la Normandie, et ce résultat extraordinaire était le triomphe de la volonté et de la persévérance. Il avait voulu, ce fils d'un méchant escompteur de village, et le succès avait récompensé son effort. Quel exemple pour elle à l'entrée de la vie! Ce qu'elle demandait, ce n'était point la réalisation de rêves ambitieux, ni la fortune, ni un grand mariage, ni une haute situation, ni même le bonheur, mais simplement le moyen de gagner sa vie en travaillant et de faire vivre tranquille sa vieille grand-mère. Cela était-il donc impossible? En tout cas, elle sentait en elle une volonté assez ferme et assez solide pour ne pas se laisser abattre. Et elle était entrée bravement, et bravement aussi elle avait demandé au concierge, qui habitait l'un des deux pavillons dont la grande grille était flanquée, si elle pouvait voir monsieur le comte Prétavoine. À quoi le concierge avait répondu que monsieur le comte était au château, et que quand il était au château, il recevait tout le monde. Puis il avait donné un vigoureux coup de cloche pour annoncer une visite. Elle éprouva un mouvement d'émotion en entrant dans le vaste vestibule aux voûtes sonores où un domestique l'attendait. Sans lui rien demander, ce domestique l'introduisit dans un salon où plusieurs personnes étaient assises, deux prêtres qui causaient ensemble, des bourgeois et des paysans endimanchés. C'était à croire qu'on était chez un fonctionnaire public, chez un grand avocat ou un médecin à la mode. Tout ce monde la regarda, l'examina des pieds à la tête curieusement, les prêtres en échangeant tout bas leurs observations, mais personne ne lui adressa la parole. Elle s'assit dans un coin, n'ayant qu'à attendre que son tour vînt. Comme cela se fait chez les médecins, où il n'est pas d'usage qu'un confrère attende, les ecclésiastiques passèrent les premiers, lorsque s'ouvrit la porte qui faisait communiquer le salon d'attente avec le salon de réception. Mais non ensemble, chacun à son tour, le plus âgé le premier, puis ceux qui étaient arrivés avant elle. Et pendant ce temps, au milieu de l'allée venue des solliciteurs, de ceux qui partaient et de ceux qui arrivaient, elle préparait son discours, reniant chaque fois que la porte s'ouvrait, dans ce qu'elle devait dire, de manière à ne pas ennuyer un homme occupé. Enfin, ce fut à elle. Dans un immense salon éclairé par six larges fenêtres, se tenait un homme qui lui parut si jeune et si peu imposant qu'elle eut peine à croire tout d'abord que c'était ce fameux comte Prétavoine dont elle avait tant entendu parler et qu'elle s'était figuré tout autre. C'était bien lui, cependant, joli garçon, la taille serrée dans une élégante redingote noire boutonnée, la tête encadrée dans un col droit cassé au coin et que soutenait une cravate en soie bleu droit attachée par une épingle à fleur de lys en argent. En voyant s'avancer Hélène, il s'inclina et de la main il lui indiqua un coin du salon dans lequel un vaste paravent chinois formait une sorte de petit salon particulier, où l'on était mieux entre soi et surtout où l'on se trouvait à l'abri du froid et des courants d'air devant une immense cheminée à grand landier chargée de bûches embrasées. « Madame ?» demanda-t-il d'un ton interrogateur. « Hélène Marguerite, fils de M. Marguerite, qui était principal du collège de Condé. « Je n'avais pas l'honneur de connaître monsieur votre père, mademoiselle, mais par tout le bien qu'on m'a dit de lui, je sais que sa mort est une grande perte pour notre ville. » Ils étaient passés derrière le paravent. Il lui désigna un canapé placé à côté de la cheminée, tandis que lui-même s'asseyait dans un fauteuil près d'une table chargée de papiers. « Veuillez me faire savoir, mademoiselle, ce qui me vaut l'honneur de votre visite. » On ne pouvait se montrer plus affable. Ce qu'il lui avait dit de son père avait surtout touché Hélène, qui tout de suite exposa sa demande. Elle le fit plus librement, plus aisément qu'elle n'avait cru, parlant vite, trouvant ses idées et ses mots, et ne disant que ce qu'elle devait dire. Cependant, à mesure qu'elle avançait, elle se sentait moins à l'aise qu'en commençant. La fixité des regards que le comte Prêt-à-Voine attachait sur elle la troublait. Elle éprouvait un sentiment analogue à celui qui l'avait gênée lorsque le notaire Griolet l'avait regardé. Mais de peur de s'embarrasser de rester court, ou de ne pas dire ce qu'elle devait dire, elle parlait les yeux tournés du côté de la cheminée sans les relever sur le comte. Cependant, quoi qu'elle fît, quoi qu'elle voulût, elle sentait ses regards qui, perçant le voile noir dans lequel elle était enveloppée, l'examinaient. Elle eût voulu qu'il l'interrompît, qu'il la questionnât, mais tout au contraire, il la laissait sans dire un mot, sans faire un signe, et penché vers elle, ne bougeant pas, il la regardait toujours. Ce regard, elle le sentait glisser sur elle de la tête aux pieds et remonter aussitôt pour se poser sur son visage. Il y avait là comme une sorte de toucher matériel, tant l'impression pour elle était vive. Cependant, elle arriva au bout de ce qu'elle avait à dire et alors, n'ayant plus à parler, il fallut bien qu'elle leva les yeux sur celui auquel elle s'adressait. Il ne répondit pas. Et pendant assez longtemps, il resta à la regarder, les yeux attachés sur elle. Il semblait qu'il voulût lui faire passer un examen, comme si c'était d'après cet examen qu'il devait se décider, accorder sa protection ou la refuser. Et elle attendait. Enfin, il prit la parole. « Ainsi, mademoiselle, vous avez vos diplômes ?»« Oui, monsieur le comte. » Il se prit à sourire. « Je suis convaincu qu'ils ont été très légitimement gagnés. » Bien que des juges ne doivent pas conserver tout leur sang-froid et toute leur impartialité lorsqu'ils se trouvent en présence de certains candidats. Je vous assure que mon père n'avait fait aucune démarche en ma faveur. Il en aurait plutôt fait pour réclamer la sévérité de mes juges que pour me demander leur indulgence. J'en suis convaincu. Aussi n'était-ce point cela que je voulais dire, mais simplement que les oreilles ne doivent pas être bien sévères quand les yeux sont charmés. Ce n'était pas la première fois qu'Hélène recevait un compliment. Cependant, celui-ci la stupéfia. Et quoi? C'était à cela que pensait cet homme grave en qui elle avait mis toutes ses espérances? Elle ne répondit pas, ne sachant que dire, ou plutôt n'osant pas dire ce qui lui venait sur les lèvres. Il continua. Soyez assurée, mademoiselle, que je suis disposé à faire tout ce qui pourra vous être agréable, et que pour que nous réussissions, car votre affaire devient la mienne, je n'épargnerai ni mon temps, ni ma peine, ni mes démarches, ni le peu d'influence que je puisse avoir. » Elle respira. Et relevant les yeux, elle montra son visage éclairé par le sourire de la reconnaissance. Comme elle devrait à l'avenir être attentive à ne pas s'effaroucher pour des niaiseries. Mais, pour que ces démarches puissent produire tout leur effet, continua le comte Prêt-à-Voine, je voudrais les appuyer sur quelque chose de matériel qui justifie ma recommandation. « Évidemment, vous avez, fille d'un père tel que le vôtre, les meilleurs titres à faire valoir. Cependant, je voudrais plus encore, précisément cette chose matérielle dont je parlais. » Elle le regarda, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. « Vous avez eu la pensée de vous adresser directement à moi pour votre demande, et je ne puis que remercier le ciel de cette bienheureuse inspiration qui me procure la joie de faire la connaissance d'une personne aussi charmante que vous. » De nouveau, elle baissa les yeux. Mais cependant avec moins de confusion que la première fois, car ce marivaudage paraissait être décidément une manie à laquelle il ne fallait pas faire attention. « Je désirerais, dit-il, avoir une lettre de vous que je pourrais montrer et qui serait une sorte de témoignage. Voulez-vous m'écrire cette lettre ? J'aurai l'honneur de vous l'envoyer. Pourquoi attendre ? Ne pouvez-vous pas me l'écrire tout de suite, ici même ? Mais je crains d'abuser de votre temps. Il y a des personnes qui vous attendent. Ne vous inquiétez pas de ces gens-là. Ils attendront. Mon temps est à vous, tout à vous. Approchez, je vous prie. » Et de la main, il lui indiqua une chaise devant la table. Hélène vint s'y asseoir, mais sans relever son voile. Pendant ce temps, le comte Prêt-à-Boine avait fait le tour de la table, et il s'était assis vis-à-vis la place qu'Hélène allait occuper de façon à la voir devant lui, sous les yeux. Elle avait pris la plume de ses doigts gantés. « C'est en quelque sorte un exemple d'écriture, » dit-il en souriant. « Ne vous déganterez-vous pas ? Cela serait plus commode pour l'écrire. » Sans répondre, elle retira le gant de sa main droite. « Quelques lignes seulement, » dit-il. « Vous me priez d'appuyer votre demande et cela suffit. » Tout en parlant, il s'était penché sur la table et il regardait la main qu'elle avait posée sur le buvard, une main aux doigts effilés et lisses, à la peau un peu rouge, de cette rougeur qu'est le signe d'un sang jeune et riche, mais malgré cela élégante. « Et ce voile, » dit-il, « ne le relèverez-vous pas ? Il va vous gêner. » Elle hésita un moment, mais il lui sembla que refuser ce qui lui était demandé s'était attaché précisément à cette demande d'une importance maladroite, et elle releva son voile en le rejetant sur le côté, puis tout de suite elle se mit à écrire. Mais si grande que fût son application, elle ne pouvait pas ne pas sentir les deux yeux attachés sur elle, tantôt sur son visage, tantôt sur ses mains, qui la brûlaient comme l'eussent fait les rayons d'un miroir ardent. Elle se hâta d'en finir en quelques lignes aussi brèves que possible. « Est-ce cela ? » dit-elle en mettant sa lettre sous les yeux du comte. Il la prit, la lut, l'examina, l'admira, la tête penchée. « Parfait, charmant. Je vous avais demandé un modèle d'écriture, non de style. » Là-dessus, elle se leva. « Eh quoi ? Vous voulez vous retirer ?» Mais tout de suite, il corrigea ce que ces quelques mots avaient de trop expressif. « Si vous voulez bien revenir samedi prochain, je vous ferai connaître la réponse que j'aurai reçue alors, sans doute. » Puis, prenant un air recueilli qui contrastait avec l'animation que ses yeux traduisaient quelques instants auparavant, « Prions Dieu, mademoiselle, pour qu'il daigne favoriser nos desseins. » Et gravement, il la reconduisit.